Eh bien, mes amis, ce matin, comme le psalmiste, nous voulons répéter cette prière. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les merveilles qui sont dans ta loi, en retirer une instruction qui puisse nous aider dans toutes nos églises, dans toutes nos communautés, là où nous nous rassemblons, pour que ta gloire soit manifestée dans nos vies individuelles et dans notre marche collective dans ce monde. Pour la gloire de Jésus. Amen. Eh bien, je pense, mes amis, que vous avez discerné en lisant ce chapitre combien était important les vérités que cette page contient et combien ce chapitre est actuel. Quel enseignement nous pouvons recevoir aujourd'hui, comme nous le disions dans la prière, dans nos propres vies et aussi dans la vie de l'Église. Donc, dans ce 18 juillet, nous avons abordé la lecture du deuxième chapitre de ce deuxième épître aux Corinthiens, et je pense que cette lecture n'a fait qu'augmenter en vous le désir de mieux connaître ces Corinthiens auxquels était adressée cette lettre. De mieux connaître aussi ce qui se passait dans cette église. Vous avez tout de suite réalisé que quand on lit le chapitre 2, il faut avoir lu le chapitre 1er. Et comme nous le soulignons samedi pour la bonne compréhension de cette seconde lettre, notre désir s'accroît de lire, quoi? La première lettre. Et même, je dirais, une partie du livre des Actes des Apôtres, celle qui mentionne le séjour de Paul à Corinthe, et le travail qu'il avait accompli dans cette île. Alors, vous revenez donc en arrière et vous prenez le chapitre 18 des Actes, où nous voyons l'œuvre que Paul accomplit dans cette île et le temps qu'il y passa, environ 18 mois. Je dis ceci pour vous montrer que bien sûr, quand on ouvre la Bible comme ça, on peut tirer un verset. Et dans ce chapitre, vous auriez pu prendre un verset qui vous édifie. Par exemple, grâce soit rendue à Dieu qui nous mène toujours en triomphe, hein, manifestant partout l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Vous ouvrez votre Bible comme ça, puis, alors, vous avez une nourriture spirituelle. Hein, et vous êtes édifié par le verset qui vous est apparu comme pouvant vous dire quelque chose. Mais c'est pas lire la Bible, ça. C'est pas se nourrir de la parole. Et vous n'aurez jamais une compréhension de la vérité que Dieu voudrait nous révéler si nous faisons de la Bible simplement un livre plus ou moins magique où nous tirerions un verset pour notre encouragement quotidien. Je l'ai raconté, je crois, dans un autre temps, une expérience aussi qui m'est arrivée parce que nous sommes toujours faibles. Pendant que j'étais en Suisse, il y a 2 mois, dans un état physique assez lamentable, un certain soir, n'en pouvant plus, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, comment est-ce que cela se fait que ma femme, qui est médecin, m'a laissé partir pour faire face à une telle mission, alors que je me sens presque mourir. Et j'ai dit, tu peux me donner un encouragement, Seigneur. Et vous voyez que malgré ce qu'on enseigne qu'il ne faut pas faire, on est porté à certains moments à le faire quand même. C'était près de minuit, alors j'ai ouvert ma Bible. Je venais lui parler de ma femme au Seigneur, et quand j'ouvre les yeux, et sa femme lui dit, maudit Dieu meurt. Mais ça, alors voilà, j'avais la réponse. Donc ma femme en a marre de moi. Elle est lasse de me supporter. Elle a déjà assez d'autres malades. Alors ça lui fait un peu de vacances de ne plus m'avoir sous sa garde. Mais là, j'aurais pu couler. Je vous dis simplement cela pour vous montrer le danger qu'il y a de prendre la Bible comme ça et de l'ouvrir plus ou moins au hasard tout en disant, Seigneur, donne-moi une parole. Ça, c'était une histoire qu'un autre m'a racontée, je l'ai vécue. Et c'est assez extrait puisque c'était exactement le 17 mai au soir. Vous voyez que nous avons toujours besoin d'apprendre, de réapprendre et de nous laisser corriger. Parce que, vous savez de quelle femme il s'agissait? Dans ce que j'ai lu. Dans Job, hein? La femme de Job. Alors il faut remettre tout cela dans le contexte. Et nous verrons même que Job a été très délicat vis-à-vis de sa femme. Il lui a pas dit tu es folle. Il lui a dit tu parles comme parlerait une insensée. Il l'a pas traité d'insensée, hein. Il a dit, mais il a compris son moment de découragement. Bon. Alors. Revenons maintenant à notre chapitre 2 que vous avez lu ce matin. Avant que nous écoutions vos réponses à cette question, comment reconnaître un véritable enfant de Dieu? Dans les versets 1 à 11, Paul expose le vrai motif pour lequel il avait changé son plan de voyage. Comme nous l'avons vu samedi, il s'était proposé d'aller chez les Corinthiens et finalement il y avait renoncé. Alors, dans ces 11 premiers versets, il expose avec plus de détails, le vrai motif qui a changé son intention. Et il nous dit qu'il ne voulait pas attrister ses frères de Corinthe. Il aurait voulu les voir dans la joie. Et il savait que s'il y allait dans l'immédiat, eh bien, il leur aurait causé de la tristesse et lui-même aurait été attristé. C'est pas qu'il y avait le oui et le non en lui, mais il se laissait quand même diriger par le Seigneur. On peut se proposer quelque chose avec la lumière que nous avons aujourd'hui, mais en disant au Seigneur, si toi tu vois autrement, dispose. Nous nous proposons les choses, mais nous laissons ensuite Dieu disposer. Et s'il veut que les choses se passent autrement, qu'il y ait un retard, au lieu d'être contrarié, eh bien, nous acceptons sa volonté. Et voyez-vous, si nous comprenons de mieux en mieux le thème de ce temps, vous direz que si nous acceptons de vivre l'aujourd'hui de Dieu, c'est-à-dire sa volonté aujourd'hui, si nous acceptons que Dieu fasse sa volonté en nous aujourd'hui, eh bien, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. On n'a pas besoin de nous occuper de demain. Nous désirons réellement qu'aujourd'hui, sa volonté s'accomplisse dans notre vie. Puis demain sera un souci de lui-même. Et nous pouvons être persuadés que si nous acceptons la volonté de Dieu aujourd'hui, sans murmure, en nous disant, je ne comprends pas, peut-être, mais elle est bonne, agréable et parfaite, puisqu'elle vient de Dieu, bien demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Encore. Nous pouvons en être convaincus. Ensuite, dans les versets 12 à 17, vous voyez que Paul exprime sa joie et sa reconnaissance, ses actions grâces à la vue du succès de l'Évangile qui fait vraiment du croyant la bonne odeur du Christ dans le monde. Mais considérons maintenant plus en détail ces deux parties de ce chapitre. Pourquoi Paul a retardé son voyage à Corinthe? Verset 1 nous dit qu'il ne voulait pas y aller avec tristesse pour eux et pour lui. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car s'il les attriste, de qui recevrait-il de la joie? Qui vous attriste? Qui peut me réjouir? Sinon, celui qui est attristé par moi. Alors, il a compris qu'il devait attendre. Puis, c'est ici que nous sentons vraiment le besoin d'aller réellement dans la première épître aux Corinthiens pour savoir quel était surtout son sujet de tristesse. Alors bien sûr, toute l'épître nous montre déjà depuis le premier chapitre, dans sa première lettre, qu'il y avait des divisions parmi les Corinthiens, mais la chose la plus grave dont l'apôtre parle ici, c'est que ces Corinthiens qui avaient reçu de grands dons spirituels et qui étaient désunis, qui avaient toute espèce de parti, étaient pourtant unis pour le mal. Désunis pour le bien, mais unis pour le mal. Il y avait quelqu'un qui se nommait frère dans cette église de Corinthe et qui vivait dans l'inceste. Et là, personne ne disait rien. Ils étaient tous unis pour laisser cet homme vivre dans une telle situation, dans un tel état de péché. Les uns se réclamant de Paul, les autres se réclamant de Céphas, les autres d'Apollos, les autres du Christ. Mais quand il était question d'agir, de réprouver alors le mal, personne ne disait rien. Et c'est cela le sujet de tristesse profonde de Paul. Il leur avait écrit ceci au chapitre 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle que ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Bien sûr que ce n'était pas réellement sa mère, puisqu'il est dit la femme de son père. Ça pouvait être sa belle-mère ou la seconde femme de son père. Mais enfin, cela était considéré comme un inceste. Et il fait donc, dans ce chapitre 2, allusion à cet état de choses. Un membre de l'Église qui prenait le repas du Seigneur vivait dans cette situation avait des rapports sexuels avec la femme de son père, et nous savons que cette impudicité, cette immoralité, était sévèrement condamnée par la loi de Moïse. Vous avez qu'à lire alors le chapitre 18 du Lévitique, verset 8, le chapitre 20 de ce même livre du Lévitique, verset 11, ainsi que le chapitre 22 du Deutéronome, verset 30. Et ce fait, cette situation de cet homme était connue des croyants. Et aucune discipline n'était exercée contre cet homme. On était divisé sur un tas de choses, mais pour agir, pour purifier l'Église, la personne ne bougeait. Alors, quel exemple c'était pour les païens qui eux-mêmes condamnaient une telle immoralité? J'ai connu dans mon existence, il y a peut-être 40 ans de cela, un homme qui était pasteur, prédilectant, connaissant bien les Écritures, qui était très aimé des anciens de son église, et qui pourtant vivait dans l'homosexualité. Et pourtant, c'était un milieu très évangélique. Les anciens connaissaient la chose, mais comme c'était un homme qui avait un message évangélique, et qui était éloquent, qui attirait les foules, eh bien, les responsables cachaient la chose. Puis il y avait des conversions quand même. Mais un jour, eh bien, Dieu a permis que tout cela soit révélé, mais comment? Par la police. Il y a eu le grand scandale. Et qu'est-ce qu'on a dit de cette église? Que c'était une église d'homosexuels. Et ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai, mais c'est toute l'église et qui a été salie parce que on n'avait pas voulu intervenir. On avait agi d'une façon charnelle et ce ministre de l'Évangile a dû faire de la prison et l'Église a passé par une très très grande épreuve à cette occasion-là. Mais Dieu a été dans son amour fidèle et a restauré cette Église qui est très vivante aujourd'hui. Mais c'est ce que Paul aurait voulu éviter. Il y a un nouveau témoignage là à Corinthe, un témoignage pour le Christ, un témoignage pour l'Évangile au sein des Juifs de cette ville et des païens. Et puis voilà que l'Église manque à sa tâche. Et si vous lisez alors ce premier épître aux Corinthiens, vous voyez que Paul, en leur écrivant sévèrement, avait dû affliger les croyants. Et c'est pourquoi il nous dit qu'au lieu de retourner à Corinthe, il avait finalement préféré leur écrire, versets 3 et 4, tant qu'il existait cette situation douloureuse. Alors il explique la sévérité de sa lettre, verset 3. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, parce que c'est ces enfants spirituels la plupart, ayant en vous tous cette conscience que ma joie est la vôtre à tous. Il maintient donc la communion, il n'est pas d'accord avec les agissements des Corinthiens, mais il veut quand même maintenir cette communion. Alors il leur dit dans quel état d'esprit il a écrit cette lettre qui avait paru si sévère aux Corinthiens, c'est dans une grande affliction. Quand on doit vraiment reprendre quelqu'un ou reprendre une église, eh bien, ce n'est pas une joie. Et on peut comprendre qu'on aimerait mieux ne pas en parler. On aimerait mieux tout à fait cacher la chose. Mais si on aime vraiment les âmes, bien, il faut oser dire la vérité. Alors, il nous dit dans quel état d'esprit il a écrit la lettre. Dans une grande affliction, le cœur angoissé, est-ce qu'ils allaient comprendre ses intentions, ses mobiles? Et puis il dit, c'est avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Je crois que c'est Calvin, le réformateur, qui a dit qu'avant de faire pleurer les autres, il fallait pleurer nous-mêmes. Et c'est Paul qui dit aussi que quand on doit reprendre un frère, vous qui êtes spirituel, hein, si vous devez reprendre un frère, eh bien, reprenez-le avec fermeté, mais aussi avec douceur, sachant que, au fond, nous sommes faillibles, nous aussi, et que ce qu'on reprend chez les autres pourrait nous concerner nous-mêmes. Un exemple que nous donnons souvent, c'est le lavage des pieds. Quand nous devons reprendre un frère, n'employons pas de l'eau bouillante ou une certaine brosse qui chatouille. Certains comprendront pourquoi. Il ne faut avoir des égards. Je vous ai écrit non afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Et ensuite, il dit, parlant de cet homme dont il est question dans sa première lettre, vous avez remarqué qu'il l'appelle quelqu'un. Il ne le nomme pas. Il ne dit pas ce frère, mais il l'appelle simplement quelqu'un. Si quelqu'un a été cause de tristesse, ce n'est pas à moi qu'il a attristé, mais vous tous, du moins en partie. Il sait très bien que il y en a qui ont été réellement attristés, mais il sait que mais pas tous. Enfin, il ne veut pas exagérer. Ou, selon une autre traduction, il ne veut pas non plus les accabler. Il ne veut pas dire que personne n'avait été triste. Oui, il y en a qui avaient été tristes. Vous voyez la délicatesse qu'il a. Puis, au fond, il veut montrer que tout ce qui était attristé en premier lieu. C'est le Seigneur. Si quelqu'un pêche, mais qui est-ce qu'il attriste? Il attriste le Seigneur. Mais vous voyez, avec le verset 6, que les Corinthiens avait quand même accepté les remontrances de l'apôtre Paul et avait discipliné ce frère, c'est-à-dire l'avait retranché de la communauté. Et cette discipline avait produit son effet. C'est le verset 6 qui nous montre. Quand il dit « il suffit » pour cet homme, qu'il a appelé d'abord quelqu'un, du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, donc c'était pas tous qui n'avaient pas eu tout à fait l'unanimité, mais enfin, le plus grand nombre avait été d'accord qu'on ne pouvait pas tolérer une telle chose, après avoir été éclairé par la lettre de l'apôtre. Mais ce qui s'était passé, c'est que maintenant, que cet homme avait été touché par cet acte de discipline, eh bien, les Corinthiens risquaient de s'être endurcis et de dire, ben voilà, nous nous sommes débarrassés de ce pécheur. Alors, c'est pas pour cela. Paul avait été si sévère qu'il avait cru qu'il devait demander même la mort de cet homme, le livrer à Satan pour la destruction de la chair. Cet homme ne pouvait pas être un témoin dans cette église de Corinthe, dans un pareil état. Alors, il aurait mieux valu qu'il soit retranché, comme ce fut le cas pour qui ? Qui ne pouvait plus être témoin dans l'église primitive. Ananias et Saphira, qui sont tombés morts, qui ont été réellement retranchés. Je ne dis pas qu'Ananias et Saphira sont perdus, mais ne pouvant plus être des témoins ayant commis ce qu'on appelle le péché qui mène à la mort, hein, c'est-à-dire au retranchement même du corps, comme aussi quand on prend la Seigneur indignement, comme nous l'avons lu hier, n'est-ce pas, plusieurs sont malades, et d'autres dorment, sont morts, ça peut aller jusque-là. Ce n'est pas le salut éternel de ces hommes ou de ces femmes qui en cause. Je ne vais pas douter de leur salut, mais étant donné qu'ils vivent dans un état qui détruit leur témoignage, eh bien, s'ils ne se repentent pas, le Seigneur les retranche. Et cela, on pourra tenter plusieurs cas de personnes qui ont été pourtant employées par le Seigneur et qui ont été retranchées. Mais là, la discipline, c'est là que l'on voit comment nous devons agir quand on apprend que quelqu'un n'est pas en règle avec le Seigneur. C'est surtout dans le cas d'un mal moral, ça peut être aussi d'un mal doctrinal. Eh bien, si on doit arriver jusqu'au retranchement, c'est toujours en vue de ramener la personne. Et vous avez l'enseignement de Jésus dans le chapitre 18 de Matthieu pour savoir comment procéder dans une église, dans un cas pareil. On va d'abord le trouver seul. Puis on essaye de lui parler. Si il ne veut pas nous écouter, on prend un frère. Hein? Et puis, s'il ne veut pas écouter les deux frères, alors on en parle à l'église. Et finalement, s'il ne veut pas écouter l'église, c'est l'église qui prend la décision. Eh bien, dans ce chapitre-là, on a vraiment des enseignements au sujet de la discipline. Mais voilà que si cette discipline produit son effet, et c'est ce qui est arrivé au verset 6, bien, l'apôtre est tout prêt à dire qu'il suffit maintenant pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Donc, il y avait eu repentir chez cet homme. Cette repentance dont parlera Paul plus tard dans le chapitre 7, dont on n'a pas de regret. Il y a une repentance qu'on ne regrette pas et qui nous amène vraiment à une restauration. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. C'est cela que le Seigneur veut. Et il voudrait nous amener à confesser nos péchés. Celui qui cache ses transgressions, dit le livre des Proverbes, ne prospérera point. Mais celui qui les confesse et qui les abandonne, lui, obtiendra miséricorde. Et puis, le psaume 32 nous montre combien on peut être malheureux quand on cache nos transgressions. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Et puis, le psalmiste nous montre combien il était malheureux pendant tout ce temps où ils ne vivaient pas dans la réelle communion avec le Seigneur. Alors, il est question pour nous de suivre quand même la personne qui était disciplinée. Et si l'on voit qu'il y a repentance réelle, il faut savoir apporter le pardon et la restauration. Et c'est pourquoi, au verset 8, l'apôtre qui avait été jusqu'à demander la mort de cet homme, « Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. » C'est tout à fait dans le contexte biblique. Dans le livre de Job, il est dit « À celui qui est dans l'affliction est due la miséricorde de la part de son ami » et dans les Proverbes aussi. « Sinon, il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. » Si plus personne ne veut avoir de contact avec lui, ou bien il risque de retomber dans son péché, ou de retourner vraiment au monde. Donc, il nous faut avoir un regard charitable, être sévère avec le péché, mais charitable pour le pécheur. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Ça concerne aussi bien sa première lettre. Et que quand je vous écris qu'il faut retrancher le méchant du milieu de vous-même, est-ce que vous obéirez à cet ordre apostolique? Mais maintenant, quand je vous écris qu'il faut aussi savoir pardonner et restaurer, est-ce que vous vous soumettrez? Il y a les deux aspects. Et de nouveau, il insiste sur la communion qu'il a avec eux. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne. Moi aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence du Christ. C'était aussi en présence du Christ qu'il voulait que les Corinthiens se séparent du mal. Mais maintenant, c'est aussi en présence du Christ qu'il leur dit qu'il faut restaurer cet homme. Donc rien ne se fait en dehors de Christ. Pour quelle raison? Pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, si les Corinthiens pardonnent aux pécheurs repentants, Paul leur dit, ben, moi je l'ai déjà fait, pour ce double motif. D'abord, parce que je veux vous montrer mon amour. Ensuite aussi, parce que j'agis dans la présence du Christ, sous son regard, et selon sa charité et dans sa communion. Car qu'est-ce que le Christ avait dit aux apôtres? Celui à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Mais celui sur lequel vous retiendrez les péchés, ils seront retenus. Donc il faut avoir un discernement spirituel. Mais s'il y a réelle repentance, eh bien c'est dans le Christ que l'Église aussi pardonne. Parce que Paul insiste qu'il ne veut pas que Satan ait l'avantage sur nous. Nous n'ignorons pas ses desseins. Quels sont les desseins de Satan, le grand diviseur? Ben, il voudrait d'abord décourager le coupable, pour qu'il retombe peut-être dans sa folie. Et puis aussi diviser l'Église. Je dirais ici simplement une chose que j'ai compris depuis longtemps. Satan d'abord nie le péché. Aujourd'hui, il n'y a pas de péché. La première chose que Satan fait, un des desseins de Satan, c'est de nier le péché. Il n'y a pas de péché à ça. Et puis après, quand on a reconnu le péché et qu'on l'a confessé, qu'est-ce que Satan fait? Il nie autre chose. Qu'est-ce qu'il nie? Le pardon. C'est vrai, c'est faux. D'abord, il nie le péché. Hein. On n'a pas de péché, on n'a pas. Puis ensuite, une fois qu'on est convaincu de péché, qu'est-ce qui nous fait croire qu'on a commis le péché impardonnable? C'est vrai, ça c'est les dessins de Satan. Il nie le péché, puis après il nie le pardon. Il y a bien d'autres choses dans les tactiques du diable, mais souvenez-vous de cela. Et maintenant, alors, nous abordons la deuxième partie. Depuis le verset 12, on reste, lorsque je suis arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'ait ouvert une porte, je n'eus plus de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, de ces gens de Troas, j'ai parti en Macédoine. Paul avait une passion, c'était donc d'apporter l'évangile. Il disait, malheur à moi si je n'évangélise pas. Mais il n'y avait pas que la prédication de l'évangile qui le préoccupait. Même dans un lieu où il y avait une grande porte ouverte pour l'évangile, il était tellement préoccupé de cet état de l'église de Corinthe qu'il a quitté ce travail pour aller en Macédoine, c'est-à-dire pour se rapprocher de Corinthe, d'où il devait recevoir Tite. Il avait pensé que Tite lui apporterait des nouvelles à Troas. Comme il attendait justement des nouvelles et le résultat de sa lettre, de sa première lettre, et que Tite ne venait pas, il a eu une telle préoccupation pour cette église, pour l'état spirituel de l'église, qu'il a abandonné un travail d'évangélisation où il aurait pu dire, mais moi j'évangélise. Il se débrouille maintenant. Non! Il a un fardeau pour cette église. Et ce fardeau est tel qu'il abandonne même une mission d'évangélisation pour aller à la rencontre de Tite. Et c'est au chapitre 7 qu'il nous dit qu'il a rencontré Tite. Mais là, il oublie, semble-t-il, de le mentionner parce que verset 6 du chapitre 7, Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Là, il ne parle pas de l'arrivée de Tite. Il est allé, au fond, à sa rencontre en Macédoine, et il a rencontré Tite, finalement. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Alors, il ne se repent pas de les avoir attristés. Il se dit, bien, de leur avoir écrit cela, bien, ça a produit un effet, tel effet, que il dit tout de suite, grâce soit rendue à Dieu. Il entre tout de suite dans l'action de grâce. Il parlera de Tite et des nouvelles qu'il a reçues plus tard. Mais, maintenant, il termine ce chapitre, enfin, en disant, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Il y a des difficultés, il y a des luttes personnelles. On a des luttes aussi au sein de la communauté. Mais nous pouvons compter sur le triomphe du Seigneur et qui veut répondre par nous en tout lieu, non pas l'odeur du monde, l'odeur de la corruption et des convoitises du monde, mais la bonne odeur de Christ. Et lui-même pourra dire, nous sommes en effet la bonne odeur du Christ pour Dieu. Et dans ces versets, l'apôtre emploie une image qu'il emprunte au sacrifice de l'Ancien Testament, ces sacrifices de bonne odeur, qui sont l'image d'un cœur pieux et sincère. Ce sacrifice, nous le voyons dans la Genèse, déjà au chapitre 8, au verset 21, le sacrifice de Noé est monté comme une odeur agréable à l'Éternel. Dans le livre du Lévitique aussi, vous avez ces sacrifices de bonne odeur, comme aussi dans le livre des Nombres, au chapitre 15e. Mais en même temps, on sait qu'un empereur ou un général qui avait remporté une victoire et soumis des peuples célébrait son triomphe quand il rentrait dans sa capitale. Et son char était accompagné d'un cortège portant des encensoirs et la fumée de l'encens montait autour du triomphateur. Et les captifs qu'il menait à sa suite étaient donc enchaînés là à son char et on sait que les uns devaient être exécutés et d'autres devaient être graciés. Alors, Paul prend cette image qui serait bien connue des Corinthiens, là partout où il y avait les Romains, et il nous montre que le Christ, lui, par son triomphe à la croix, a emmené au fond des captifs. Mais parmi ces captifs, car au fond le Christ a accompli une œuvre qui est pour le monde entier. Le triomphe de la croix ne concerne pas seulement quelques hommes, mais le monde entier. Que les hommes le veuillent ou non, Christ est Seigneur. Christ a la victoire. Mais ne sont sauvés en réalité par sa victoire que ceux qui acceptent sa grâce, qui acceptent l'évangile. Mais si vous refusez l'évangile, cet évangile qui a la puissance de vous sauver, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes perdu. Ce ne sont pas vos péchés qui vous perdent. C'est le refus de l'évangile. Et l'évangile a toujours, au fond, cet effet. Là où il est reçu, les âmes sont sauvées. Mais là où il est refusé, les âmes sont perdues. Mais personne ne pourra dire à Dieu, qu'il est responsable. Nous avons la liberté d'accepter et de refuser. Et partout où l'évangile est prêché, eh bien, il est un parfum pour ceux qui l'acceptent et qui sont sauvés, mais pour ceux qui le refusent, l'évangile devient comme une pourriture. On déteste l'évangile. On ne peut pas supporter cette odeur de l'évangile. Parfum pour les autres, et puis, qui mène à la vie, mais pour les autres, odeur de mort. Une odeur de vie et une odeur de mort. Et individuellement, le croyant devient cette odeur. Le Christ a été le parfum du Père. Quand le Christ était sur la terre, de toute sa vie, eh bien, un parfum montait à Dieu. Dieu était satisfait, il a pu dire, c'est mon fils, mon bien-aimé. Et maintenant, pour les croyants, ils nous voient en lui, ils nous voient dans le bien-aimé, de sorte que nous avons, comme nous l'avons lu hier, à être ce sel de la terre
cette bonne odeur de Christ. Mais qui est suffisant pour ces choses? Qui est-ce qui peut réaliser cela? C'est pas par notre sagesse, c'est pas par notre effort, c'est en laissant le Christ en nous manifester sa vie par son esprit. Par nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Alors, qui est suffisant pour ces choses? Le verset 17 donne la conclusion. Ce sont ceux qui ne falsifient pas la parole de Dieu, qui prennent la parole telle qu'elle est, qui prennent la parole de Dieu au mot, qui ne font pas de mélange. Mais qui gardent cette parole dans son intégrité, qui ne lui enlèvent rien, qui ne disent pas oui, mais cela, on n'a pas besoin de nous en occuper, c'est pas pour nous, c'est pas pour notre temps. Ceux qui prennent la parole telle qu'elle est. Voilà le seul chemin. Nous ne sommes pas comme plusieurs qui falsifient la parole. C'est avec sincérité, et c'est tellement beau cela, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est cela qui doit caractériser, au fond, un chrétien. Être conscient que la parole est la vérité et que si nous la présentons, nous la présentons de la part de Dieu et si nous en parlons, bien nous parlons en Christ devant Dieu, non pas simplement devant les hommes. Qui est notre premier auditeur? C'est Dieu. Ne rien ajouter et ne rien retrancher à la parole de Dieu. Alors la question maintenant, comment reconnaître un véritable enfant de Dieu? Qu'est-ce qui a été dit dans les groupes? Qu'on peut savoir le groupe 1? Oui? Groupe 2?
De la bonne nouvelle, on reconnaît bien sûr l'arbre,
ses fruits,
et puis parle qu'il doit avoir
oui. Merci. Au fond, avoir les caractères du Christ. Et le groupe 3? Oui, alors, donc il y a communion. Et le 4?
Verset 14, la bonne odeur, et bien pour donner.
Pour donner.
Et qui peut me réjouir, sinon celui qui m'a
accepté. C'est beau ça.
Et puis on a la parole, ben il met toujours Jésus-Christ.
Enfin.
Dans ce qu'il lui a dit, parce qu'il est son sauveur, et c'est à lui, c'est toujours qu'on doit se tourner.
C'est bien. Et le groupe suivant?
On est prêt, on est pas mal du même esprit, on est prêt, on est prêt, on est toujours même constitution, c'est prêt, les autres, les autres. Donc, ils sont,
je suis d'accord. Ça, c'est magnifique. Mais n'est-ce pas, si vous relisez ensuite le chapitre, vous verrez par exemple, chaque verset pourrait être commenté par un trait de l'enseignement de Jésus. Par exemple, le fils prodigue. Qu'est-ce qui a donné la plus grande joie, au fond, à son père? Est-ce que c'est le fichonnet? C'est pas pour encourager les pêcheurs, hein. Mais quand même, on voit une lumière qui nous est donnée, hein. Qui est-ce qui peut nous donner de la joie sinon celui qui nous a attristés, comme tu le soulignais, là? Et dans l'histoire de l'enfant prodigue, on voit toute la joie du père. qui vont revenir. C'est pour ça que nous devons toujours maintenir dans nos cœurs ces sentiments d'ouverture. Et le père n'avait pas pu approuver la vie qu'avait eue son fils. Mais quand il le voit revenir, eh bien, il n'y a que ça qui compte. Il est revenu. Mon fils était mort, mais maintenant, il a la vie. C'est ça qui compte. Car si moi je vous attriste, qui est-ce donc qui me réjouit? Sinon, celui qui est attristé par moi, mais c'est l'homme qui a été... Oui, il a les deux choses, il ne faut pas les diviser. Les Corinthiens ont été attristés par la lettre de Paul, hein, mais cet homme qui a été sous la discipline, et qui a été sous la discipline à cause de Paul, au fond, parce que c'est elle qui a dit aux Corinthiens qu'il fallait se discipliner. Alors, c'est quand même cet homme qui a été attristé par lui, c'est cela qui le réjouit le plus. C'est le pécheur repentant, le pécheur qui est revenu. Il n'y a pas contradiction, il n'y a pas opposition. Il faut toujours veiller, n'est-ce pas, à ne pas opposer les choses, mais avoir l'ensemble. Et il y a un autre groupe.
Un gâteau qui vient d'être écrit, il y a plusieurs bonnes choses qui rentrent dans la vie. Il n'y a pas seulement une chose, mais il y a plusieurs qui se mettent ensemble pour donner une bonne idée. Ouais.
On peut dire que c'est le fruit de l'esprit, qui est l'ensemble de toutes les grâces, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bienveillance, la fidélité. C'est un ensemble, évidemment, de grâces. Donc, on reconnaît un véritable enfant de Dieu dans le fait qu'il manifeste les caractères du Christ. Les caractères du Christ se reproduisent. Mais je dirais simplement, ici pour clore, qu'un enfant de Dieu, c'est un homme qui a été affranchi. Et vous pourriez faire toute une étude là-dessus. Un enfant de Dieu, c'est un homme qui a été affranchi de la peine du péché. C'est pour ça qu'il a une joie profonde. Il sait que Christ est mort pour ses péchés. Donc il ne subira pas la peine du péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est affranchi de cette question-là. Mais il n'est pas seulement affranchi de la peine du péché, il n'a pas seulement saisi que Christ était mort pour ses péchés, il est affranchi aussi de la puissance du péché. Ça, c'est Romains 6 en particulier qui développe cela. Christ n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais par la croix, nous aussi, nous sommes morts au péché. Il nous a pris avec lui dans sa mort pour que le péché ne domine plus sur nous. Et il n'y a que, comme affranchissement de la puissance du péché, il n'y a que cette mort avec Christ qui nous délivre. C'est qu'une fois mort qu'on ne pêche plus, que la puissance du péché n'a aucun effet sur un mort. Alors, nous devons nous considérer comme morts. Un croyant, un enfant de Dieu, il n'accepte pas simplement que Christ est mort pour ses péchés, mais il comprend qu'il est mort, lui aussi, avec le Christ. Et s'il est mort avec le Christ, pourquoi le Christ est-il mort? Bien parce qu'il mourait pour nos péchés, et le salaire du péché, c'était la mort, de sorte qu'il subissait la loi divine. Mais une fois qu'on a subi la loi divine, on est mort aussi à la loi. C'est le chapitre 7 des Corinthiens. Voilà encore un autre aspect de l'affranchissement. Ce n'est plus la loi qui nous dirige, mais c'est la grâce. C'est la grâce. Et puis, on est aussi délivré de la domination du monde. C'est ce que Paul dit aussi aux Galates, au chapitre 6. De nouveau, par la croix, il dit qu'il est crucifié au monde et que le monde lui est crucifié. Le monde perd ses attraits. pour un crucifié? Qu'est-ce que le monde peut donner à un crucifié? Rien. Et qu'est-ce qu'un crucifié peut donner au monde? Rien. Hein? Et nous croyons toujours que nous pouvons donner beaucoup au monde. C'est Dieu qui donne au monde. C'est Dieu qui a tant aimé le monde. Alors, nous sommes affranchis de la domination du monde et de cette idée que nous pouvons faire quelque chose pour le monde. Mais nous pouvons être les enfants de Dieu dans le monde. Le sel de la terre, exactement. Puis alors, il y a aussi l'affranchissement de la chair. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui maintient notre chair dans la mort. C'est pas nous-mêmes qui pouvons maintenir la chair dans la mort. Mais c'est l'action libre du Saint-Esprit. Si nous nous livrons à l'Esprit, eh bien, c'est l'Esprit qui nous maintiendra dans cette mort. Parce que la chair voudrait, elle est toujours là en nous, hein. Elle voudrait toujours diriger. Mais vous n'êtes plus débiteur à la chair. Vous êtes affranchi de cette domination de la chair. Nous pouvons dire non à la chair. Dans la puissance de l'esprit. Mais pour ça, il faut marcher par l'esprit. Il faut se laisser conduire par l'esprit. Et le mot du Saint-Esprit, c'est aujourd'hui. Et alors, il y a aussi l'affranchissement de la recherche de soi. On arrive à comprendre qu'on n'est rien. Il faut arriver à zéro. Que ce n'est pas à nous qui faisons quelque chose, mais que c'est lui en nous. Et puis, finalement, eh bien, délivré de la peine du péché, de la puissance du péché, on soupire après quoi encore? La venue du Christ qui va nous délivré alors de la présence du péché. Parce que vous le vouliez ou non, vous êtes dans un monde où règne la présence du péché. Et on ne peut se sentir qu'étranger. De sorte que un véritable enfant de Dieu, il n'est pas chez lui ici-bas. C'est vrai ou c'est faux? Nous ne sommes pas chez nous. Notre vrai chez nous, c'est là-haut. Notre bourgeoisie est dans les cieux. Si nous sommes sur la terre, c'est comme ambassadeurs du Christ. Mais notre patrie est à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez ajouter? Vous avez aimé votre étude aujourd'hui? Je crois que ça vaut la peine même d'avoir commencé comme ça. Et puis, de voir toute l'application qui peut être faite. Je veux peut-être terminer par la prière. Oui.